Il y a un psaume où David dit, toi, tu connais le sentier où je marche. Tu connais le sentier où je marche. Dieu, il sait où nous sommes. Nous, on ne le sait peut-être pas. Est-ce qu'on sait où on marche? Des fois, on dit des gens, vous savez, dans le monde, il ne sait pas où il campe. Mais c'est vrai. Et on va voir ce matin où nous en sommes. Ça vous intéresse de savoir où vous en êtes avec Dieu? Est-ce que ça vous intéresse? Dans 2 Timothée, au chapitre 3, il est parlé des derniers temps, de ces temps que nous sommes en train de vivre. 2 Timothée, chapitre 3. Et l'apôtre décrit comment seront les chrétiens. Il parle des chrétiens, vous allez le voir. Dans les derniers jours, comment seront certains chrétiens qui, bien sûr, ne veillent pas sur leur âme. De Timothée, chapitre 3, verset 1er. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, c'est pour ça que ça s'adresse à des chrétiens, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Que c'est triste. On peut dire amen, mais on peut dire aussi que c'est triste. Des gens qui apprennent toujours et qui n'arrivent jamais à vivre cette vérité. C'est pathétique. Nous devons savoir où nous en sommes. Le ministère pastoral consiste à aider chacun à ce que dans demi-heure ou 40 minutes, vous puissiez dire, mais est-ce que je fais partie d'un de ces cas qui me met en danger? Parce que vous savez que la Bible dit qu'il y en a qui abandonneront la foi. Il y a des gens qui abandonnent, ils n'abandonnent pas l'Église. Ils abandonnent la foi. Il y a des gens qui garderont la foi. Ce sont ces gens qui, comme vous et moi, j'espère ce matin, auront le souci de dire, oui, si je dois me retrouver dans un de ces cas, montre-moi-le. Je veux, Seigneur, que tu me le montres. Si nous sommes honnêtes, le Seigneur nous le montrera. Quand on est honnête, il y a une réaction. Regardant, quand je lisais les mots, moi, c'est un réflexe. Je pensais à un gars de la Bible qui était comme ça, par exemple, traître. Est-ce qu'il y a eu des traîtres dans la Bible? Est-ce que vous pensez à un... Judas? Oui, Judas. Est-ce qu'il a été traître? Hein? Il a renié et vendu Jésus. Pierre, est-ce qu'il a été traître? Oui. Donc, vous avez deux cas où deux hommes se sont retrouvés dans un comportement affreux. Ils ont renié Jésus. En plus, le verdict était grave. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Et pourtant, un s'est ressaisi, et comment? Et s'est repenti, et comment? Puisqu'à la Pentecôte, qui on a choisi pour prêcher à la foule? Pierre, qui avait renié Jésus. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans notre mouvement, le brave Pierre, on l'aurait quoi? Qu'est-ce qu'on aurait fait de Pierre? Comment? On l'aurait exclu. Ah mais c'est sûr. Moi j'en suis sûr et certain. On l'aurait exclu. T'es pas digne de prêcher la parole avec ce que t'as fait. Mais il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. Alors que Judas, qui était un apôtre, puisque quand ils sont partis tous les 12, ils ont tous fait des miracles, c'était un pasteur, c'était un apôtre. Il n'a pas fini pareil. Notre frère Jérôme Fabio disait tout à l'heure, à juste titre, que lorsque l'on est chrétien, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que nous ne pouvons pas ne pas chanter des textes comme Jésus. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un est le temple du Saint-Esprit, il ne peut pas ne pas exprimer la vie du Saint-Esprit en lui. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes rempli de quelque chose, vous l'exprimez. Quelqu'un qui est rempli de colère, vous allez voir que vous allez savoir qu'il est en colère. Ça va s'extérioriser. Judas finit. Il est dit que Satan est entré dans Judas. Et vous avez vu comment il a terminé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est suicidé. Et on pourrait prendre notre traître, je pense, ou notre hautain, puisque le hautain, je pensais à Saül. Lui aussi s'est suicidé. Il a consulté, il a fait pire, je crois encore. Il a consulté une sorcière. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien revienne à l'astrologie, qu'un chrétien revienne au spiritisme ? Ben oui. Et toutes ces choses sont écrites, ce n'est pas pour nous agacer. Si le Saint-Esprit a voulu que ces choses soient écrites, c'est pour que nous puissions dire, mais est-ce que moi je sais où j'en suis ? Est-ce que je m'approche de Dieu ou est-ce que je m'éloigne de Dieu ? Moi le premier. Est-ce que j'ai une véritable foi qui fait que eh bien, je dépends de Dieu, je suis avec le Seigneur dans mes combats, mes tristesses, mes joies, qu'importe. Mais je marche avec Dieu. Ou est-ce que je ne réalise pas l'état dans lequel je suis ? Comme la dernière église où Dieu dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, tu crois que tu es riche, et tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu crois que tu vas bien, et tu ne sais pas que tu es aveugle. Alors béni soit Dieu pour sa patience, mais vous savez qu'il ne nous poussera pas. Dimanche dernier, nous avons partagé l'affaire où Jésus s'est approché des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et quand, au bout de 2 heures, Jésus leur explique exactement ce qui le concernait par les Écritures, et qu'ils arrivent à la maison où ils devaient séjourner, eh bien, Jésus paraissait vouloir aller plus loin. Et ils seraient partis, s'ils n'avaient pas dit « reste avec nous ». Et je sais, que plusieurs d'entre nous ne savent pas où nous en sommes, pour la simple unique raison que nous ne prenons pas le temps de faire le point avec Dieu. Un culte, est-ce que c'est suffisant un culte pour faire le point ? Tiens donc, c'est une question ça. Est-ce que ça suffit ? Non, moi je ne crois pas. Ça devrait. Quelqu'un qui va bien spirituellement, ça va. Quand quelqu'un va bien physiquement, le check-up sous le docteur, c'est vite fait des fois. Quand quelqu'un va mal, il faut du temps parfois, et plusieurs examens, et des IRM, etc. L'apôtre Jude parle, on pourrait le lire, garder la page d'un Timothée. Je voulais prendre que ce texte, mais je pense qu'il faut qu'on le prenne. Pour certains qui ne réalisent pas qu'ils peuvent perdre la grâce de Dieu. Saül, je viens de faire allusion à Saül, qui était un roi baptisé du Saint-Esprit. Croyez-moi, Judas a été en contact avec Jésus, a reçu vraiment la part de Dieu. Et dans Jude, juste avant l'Apocalypse, il parle de ses croyants. Parce qu'il parle des croyants, on sait que c'est aux croyants, puisqu'il est dit des arbres deux fois morts. Deux fois mort. Vous vous souvenez qu'avant notre conversion, on était mort. Est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Vous étiez mort dans vos offenses, dans vos péchés. Oui. Et quand il dit deux fois mort, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient morts parce que le salut ne leur appartenait pas, et comme ils ont rétrogradé, eh bien ils sont morts de nouveau. Et regardez dans Jude, mais vous lirez cette épître, c'est une épître terrible. Parce que justement, c'est une épître qui nous enseigne à combattre le bon combat, et que beaucoup de chrétiens ne le combattent plus. Regardez, en parlant de certains... Il parle des chrétiens, hein, faites-moi confiance. D'ailleurs, vous allez le comprendre. Jude, verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux. Oui, la Bible parle de malheur pour les chrétiens. Ils ont suivi la voie de Caïn, tous ceux qui veulent le salut par les œuvres. Ce n'est pas parce qu'on achète une moto qu'on est sauvé. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Vous lirez ce qu'a fait Balaam et vous verrez que c'est pas fameux, lui aussi pour un prophète, pour de l'argent. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée, hein, ceux qui se rebellent, on va en parler. Regardez bien, verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Ça doit être terrible en Afrique quand il n'a pas plu depuis des mois, que les nuages passent et qu'il ne distribue pas de la pluie. Ça doit être une frustration pas possible. Nous, quand il pleut, on se plaint. Ouais. Poussé par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Je vous assure, c'est des chrétiens. Les vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alors je voudrais pas que vous pensiez que c'est négatif, mais mes frères et sœurs, je le sais, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts, beaucoup seront dehors lorsque la porte sera fermée. Alors, ce que je voulais faire, c'est commencer un travail que vous poursuivrez. Je vous demande de le faire. Donc, dans 2 Timothée, au chapitre 3, il parle des chrétiens qui auront l'apparence de la piété. Quand on chante, et je voulais demander, je vous assure devant Dieu que c'est vrai, je voulais demander à Jérôme de faire chanter ce cantique qu'on n'a pas chanté depuis des années. Le cri de mon âme s'élève vers toi. C'est un cantique d'une immense profondeur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est profond comme tout. L'apparence de la piété, c'est ça. Mais vous vous rendez compte? Je chante avec allegro. Je chante, le cri de mon âme s'élève vers toi. Mais vraiment, elle te réclame Jésus pour son roi. Vous rendez compte des paroles pareilles? Et pourtant, tout ça, ça peut être fait avec l'apparence de la piété. Parce que je ne suis pas conscient de l'état spirituel dans lequel je me trouve. Alors, est-ce que je sais, mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais, si Jésus revenait ce matin, ce soir, est-ce que tu peux dire oui, je sais que je suis prêt à le rencontrer? Moi, je peux vous dire, mes frères et sœurs, j'en ai honte parce que je suis le pasteur de l'Assemblée, même si ça ne m'incombe pas entièrement. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts. Alors, lisons ces textes. Alors, dans les derniers jours, il y aura des gens, comment ils seront? Égoïstes. Tiens donc. Des chrétiens égoïstes, mais tu plaisantes. Est-ce ça peut arriver, un chrétien égoïste qui pense? Alors, écoutez, moi j'ai pris le Robert. Vous tapez, vous avez tous Internet. Vous tapez sur Internet dictionnaire Robert et vous regardez la description des mots ou un dictionnaire biblique, c'est pareil, à peu près pareil. Mais de toute façon, le résultat, c'est le même. Égoïste, quelqu'un qui rapporte tout à soi. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Quelqu'un qui ne donne pas pour les autres, il n'arrive pas à se donner. Un égoïste. Pense qu'à lui. Et je vous assure, c'est un problème dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver d'être égoïste? Je pense qu'à moi. Mon mari, ma femme, mes enfants, on verra. On verra. Bien sûr que le contraire de l'égoïsme, c'est l'altruisme. Mais dans ma maison, moi je voudrais que nous commencions non pas à dire, oui, je sais donner, mais dans ma maison, auprès des miens, est-ce que je sais me donner? Ou est-ce que, comme je l'entends de plus en plus, dans la bouche de certaines chrétiennes, leur mari, quand on leur demande quelque chose, tu me saoules. Et le dimanche, on a la folie de chanter, le cri de mon âme s'élève vers toi. Et si vous ne savez pas vous donner, alors pour Dieu, il y a des gens qui savent se donner pour Dieu, ah hein, moi pour Dieu, oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le monde, il est de trop, croyez-moi. Mais l'égoïsme, c'est savoir se donner pour les autres. Mon frère, est-ce que tu te donnes pour ta femme? Ma sœur, est-ce que tu te donnes pour ton mari? Est-ce que tu te donnes pour l'Église? Et ne voyez pas dans mes propos de la culpabilisation. Si quelqu'un pense que je suis en train d'utiliser un texte aussi sévère pour culpabiliser, vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas le Seigneur. Ce sont des choses qui font que les chrétiens ne seront pas prêts. Parce que les gens qui auront l'apparence de la piété, laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas prêts. Puisqu'il faut s'éloigner de ces gens-là. Alors, le contraire de l'égoïsme. Mais j'aimerais que vous fassiez une étude personnelle. Mais peut-être dans votre couple déjà. Est-ce que vous priez avec votre mari? C'est une question qu'on peut poser, ça. Est-ce qu'on peut prier avec sa femme? Et dire, tiens, mais ce texte, on va le prendre ensemble, on va le prendre avec les enfants. Amis de l'argent, amis de l'argent, mes frères et sœurs. Souvent, on a vite fait de parler de ceux qui viennent d'Afrique. Tiens, les Africains, mais ils sont convertis. Ouais, ils sont convertis, mais ils sont encore superstitieux. C'est vrai. Il y a des Africains, ils sont chrétiens, ils sont superstitieux. C'est dommage. Beaucoup de Français, une fois convertis, ne sont pas superstitieux. Mais ils ont un problème avec l'argent. Amis de l'argent. L'avarice. Vous savez, la semaine dernière, j'ai donné une prophétie sur moi. Quelqu'un l'avait reçue, il ne l'a pas donnée. C'est pour ça que je l'ai donnée. Je comprends que la personne n'ait pas voulu la donner. Mais moi, depuis 5 ou 6 jours, Dieu m'avait prévenu par rapport à des chrétiens dans l'église, ici. Parce que je l'ai reçu quand je faisais la mission. J'ai reçu cette pensée quand je faisais la mission. J'étais resté dans mon appartement pour prier, pour jeûner. Et j'ai reçu cette parole. Je dis, Seigneur, j'adorais. Mais le Seigneur m'a montré que ce n'était pas pour Saint-Maximin. C'était pour Saint-Agne. Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'ose pas aborder parce que, voilà, ça fait appel d'argent. Non. Et il y a des gens qui sont, le mot peut-être pas le mot le plus approprié, dans le malheur. Mais le mieux, c'est peut-être que vous lisiez, que nous lisions le chapitre 3 de Malachie pour se rendre compte que toute la nation d'Israël a été frappée par la malédiction parce qu'ils volaient Dieu. Et quand j'ai reçu la parole, c'est... Il y a des chrétiens dans l'église qui volent Dieu. Je dis, mais c'est pas possible, je vais pas dire un truc pareil. Et j'ai lu le texte, je connais par cœur, bien sûr, dans Malachie, et j'ai pas fait attention, mais dans le titre de ma version Scofield, si vous avez la version Scofield, vous l'avez, les chrétiens qui volent Dieu. Alors c'est vrai que dans une église comme la nôtre, ça pose pas de problème. Au niveau collectif. Vous voyez, s'il faut acheter notre moto demain, on va se voir avec le conseil d'administration, est-ce qu'on peut mettre 1500 euros pour acheter une moto pour un pasteur qui en a besoin au Togo? Est-ce qu'on pourrait? Mais bien sûr. Donc, le danger de Saint-Agne, c'est une église qui tourne. On ne va pas non plus cracher dans la soupe. C'est une église qui tourne, qui est en paix. Mais le collectif, c'est une chose. Et moi, souvent, j'ai été interpellé par rapport à l'individu. À vous. C'est pour ça que la Bible dit pas. La Bible parle au pronom pluriel, vous. Et puis par exemple, j'ai fait ceci, vous n'avez pas voulu, j'ai fait ceci, etc. Mais toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que c'est personnel. C'est personnel la prédication. C'est pour toute l'Église, mais en fin de compte, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur. Et quand on voit ce que Dieu dit dans le prophète Malachie au chapitre 3 par rapport aux chrétiens qui aiment l'argent, vous en parlerez à Judas. Est-ce que Judas aurait pu crier à Dieu? Est-ce qu'il aurait pu un soir dire, écoute Jésus, il faut que je te parle, j'en ai marre, j'aime l'argent, délivre-moi de l'argent. Est-ce que Jésus l'aurait aidé? Bien sûr. Il a passé 3 ans et demi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 ans et demi avec le Seigneur. Moi j'aurais aimé passer 3 heures avec le Seigneur. Il a passé 3 ans et demi dans la présence de Jésus. Il a vu tout ce que des milliards d'hommes et de femmes auraient aimé voir. Et il a fini en se suicidant parce qu'il aimait l'argent. Alors béni soit Dieu pour l'argent, le salaire. Je ne sais pas, peut-être que vous touchez le double du SMIC, le triple du SMIC, mais c'est bien. C'est le problème, ce n'est pas l'argent. La Bible ne dit pas que c'est l'argent, c'est l'amour de l'argent. Et si vous ne savez pas justement utiliser bien votre argent, si vous ne donnez pas votre dîme, alors c'est voilà, vous voyez, ça va paraître. Non, ce n'est pas une question de paraître. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande dans ce domaine? Mon frère, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Parce que c'est révélateur. On le voit du temps des rois, quand ils ont demandé à tout prix. Je prends l'exemple parce qu'il me vient à l'esprit. Quand ils ont demandé un roi, parce que toutes les nations avaient un roi, alors les Hébreux, ils voulaient un roi. Vous vous rappelez cette affaire? Donne-nous un roi, parce qu'on veut être comme les autres, comme les nations. On veut un roi. Et Samuel les avertit. Il leur dit, mais attention, le roi, il va vous demander ça. Il prendra vos filles pour en faire des pâtissières, des repasseuses. Et il vous faudra donner la dîme au roi. Mais oui. Pour le roi, oui. Pour Dieu, non. Quand on voit ce qui s'est passé, on réalise que le cœur de l'homme, il ne change pas beaucoup. Mais mes frères et sœurs, qui c'est qui bénit, quel que soit le salaire? Qui c'est qui bénit? C'est Dieu. Vous savez, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que j'en ai déjà parlé, mais pas, des fois, on a vécu des choses. Et je me souviens avec ma femme, quand on ne donnait pas notre dîme, parce que justement, j'étais stagiaire, on avait un salaire de misère, on avait accepté à l'époque un salaire inférieur au SMIC. Isabelle ne travaillait pas. Et on n'a pas donné notre dîme pendant des années. Et le dimanche, quand la corbeille est passée, moi, j'étais malade. Mais humainement, il était impossible. Je vous assure, c'est vrai, je n'exagère pas. On touchait 3 400 francs, je crois, 3 200. Et ma femme ne travaillait pas. Et on avait un loyer, je me payais tout. Ce n'est pas comme ici où on est béni. Merci les frères et sœurs du conseil. Merci. Et un jour, j'ai dit à ma femme, écoute, il faut qu'on donne la dîme. Il faut qu'on donne la dîme, j'en peux plus. Isabelle m'a dit, écoute, si on donne la dîme, vraiment, on arrivera pas, c'est sûr. J'ai dit, écoute, il faut qu'on le fasse. On a donné la dîme et je lui ai dit, tu sais, si on crève la voiture, un pneu éclate, on ne pourra même pas le changer. Écoutez bien. Le mercredi, il y a un jeune frère qui s'appelle Sébastien qui vient passer à la maison, reste manger. À la maison, on ne risquait pas d'attraper la vache folle, hein. Pâtes et blanc de poulet. Et le soir arrive, c'était tard, je le ramène, je fais 200 mètres, paf, un pneu éclate. Et j'ai dit, écoute, ben Seigneur, je vais changer la roue et on ne pourra pas. Mais tu le sais, j'ai donné ta parole, j'ai donné ma parole, je vais donner ma dîme. C'était, pour moi, c'était important. C'était sérieux, j'étais pasteur. Tenez-vous bien, j'étais pasteur, je ne donnais pas la dîme. Nous avons fait des expériences à partir de ce jour-là. Et j'ai compris que c'est Dieu qui bénit. Bon, c'est vrai que ma femme, pendant deux ans, son sac à main, c'était une poche Leclerc. Une poche Leclerc. Elle changeait souvent, remarque. Mais si vous saviez comment on a été heureux, comment Dieu nous a bénis. Parce que quand vous faites des expériences, vous savez que ça vient de Dieu. Vous le savez. Et le diable, qui lui aussi nous connaît, il va s'infiltrer. Il va essayer de provoquer un truc dans un domaine. Ça va peut-être être l'orgueil, vous voyez. Ça va peut-être être l'argent. En plus, on va se rassurer en disant, mais la dîme, c'est pas grave, l'église tourne bien, il y a même des sous de côté, au cas où on aurait besoin d'acheter un local, tatati, c'est bien. Donc. Mais toi, mon frère, est-ce que tu sais que la dîme, ça appartient à Dieu? Il te faut le savoir. Moi, ça me gêne de le dire, parce que ça fait appel d'argent. Je ne demande pas d'argent. Mon frère, c'est à cause de ça que Judas s'est suicidé. Il aimait l'argent. Et c'est un des signes de la fin des temps. Il y a des chrétiens, ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent, ils ne vont rien donner. Même pas à Dieu, mais même pas à leurs enfants. Il y a des chrétiens qui sont avares pour leurs enfants. Ça va leur crever le cœur de faire un cadeau à leur gosse, d'acheter des bonbons à leur gosse. Ne les pourrissez pas non plus. S'acheter un truc à eux, oui, mais acheter un bienfait à leur gosse, à leur femme, mais n'importe quoi, à la cabosser. Moi, ça me fait pas rire, hein, je vous le dis. Lisez Malachie chapitre 3, lisez-le. Et vous verrez combien de gens sont dans le malheur parce qu'ils n'ont pas pris ces choses au sérieux. Fanfarons, le troisième cas, les fanfarons. Tiens donc, c'est quoi un fanfaron? Est-ce que vous avez déjà pris un dictionnaire pour regarder chacun de ces mots? Un fanfaron, alors, dico. Cette prédication, tout le monde aurait pu la faire. Qui se vante avec exagération. Qui se vante de ses mérites ou de ses qualités, qu'elles soient réelles ou non. Bon. Qui affecte des qualités qu'il n'a pas. Voilà ce que c'est un fanfaron. Hautain. Qui s'élève haut, fier. Et vous savez ce que la Bible dit par rapport à ceux qui s'élèvent? Celui qui s'élève sera abaissé. Les gens qui veulent me mettre plein la vue, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là, alors que c'est vrai, c'est pas vrai. En tous les cas, les fanfarons, elles sont hautaines, mais faites-le. Je vous le dis, mes frères et sœurs, parce que des fois on est là dans le méga spirituel, mais il faut comprendre des choses simples. Simplement comprendre ces versets, ces mots qu'on utilise, que j'emploie régulièrement, et que certains ne savent absolument pas ce qu'ils veulent dire. Blasphémateur. Vous l'avez lu avec moi, les hommes seront blasphémateurs, des chrétiens blasphémateurs, mais tu plaisantes. Qu'est-ce que ça veut dire du grec blasphémia, qui signifie parole qui outrage la divinité, sacrilège. Injurié, insulté, profané. Vous avez vu dans l'Ancien Testament comment étaient traités les blasphémateurs? Dans le livre de l'Exode, il est parlé des blasphémateurs, au chapitre 22. Oui, Exode 22, verset 28. Tu ne maudiras, ou dans une version, alors moi j'ai lu dans la version crampon, il est dit, tu ne blasphémeras pas contre Dieu, et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Mais regardez dans le Lévitique, le livre qui suit, votre livre préféré. C'est pas vrai? C'est pas ce livre que vous lisez tous les jours? Et pourtant, croyez-moi, on ferait bien des fois de s'y arrêter. Regardez. On va le lire. Écoutez, la prédication, vous la terminerez chez vous. D'accord? Lévitique 24, verset 10. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Vous y êtes? Lévitique 24, verset 11. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse, sa mère s'appelait Shelomi, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. » Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Verset 23, Moïse parla aux enfants d'Israël, ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Amen. Alors, est-ce qu'il faut lapider quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit de lapider quelqu'un? Mais bien sûr que non. Mais est-ce que quelqu'un ne va pas mourir s'il devient blasphémateur? Spirituellement, eh bien sûr. Et combien de chrétiens, sans s'en rendre compte, maudissent Dieu, disent du mal de Dieu. Parce que c'est quoi blasphémer? C'est maudire. C'est quoi maudire? C'est dire du mal. Et sans s'en rendre compte, les gens blasphèment. Bon, le coup de Charlie Hebdo, ça c'était vraiment le top du blasphème. C'est grave, hein? Moi, je vous assure, je n'aurais jamais cru. Mais c'est la preuve que les gens n'ont plus l'esprit. On l'a lu dans Jude. Mais, alors, vous allez me dire, oui, mais ils ne savaient pas ce que c'était Charlie Hebdo. D'accord. D'accord, je veux bien. Mais moi, quand je ne sais pas, franchement, je m'abstiens. Il y a des chrétiens qui ont été protestés, défilés dans les rues. Moi, j'ai reçu des lettres de présidents de fédération demandant si je ne voulais pas faire une annonce pour qu'on aille défiler dans les rues de Toulouse pour protester, etc., etc. Pour blasphémer. Vous allez me dire, non, mais t'exagères, Gérard. Non. Je n'exagère pas. Les chrétiens qui ne veillent pas peuvent devenir des blasphémateurs. Ils maudissent le nom de Dieu. Et heureusement, que Dieu pardonne le blasphème. Est-ce que Paul a dit, avant, j'étais un blasphémateur? Est-ce qu'il était un blasphémateur? Alors, j'aimerais lire un verset avec vous, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le flou, par rapport à cette affaire de blasphème. Dans Matthieu, je l'ai marqué, Matthieu 12, Jésus parle du blasphème. Et un chrétien, faites attention avant de parler de Dieu. Comment on a vite fait de profaner, de mélanger, d'injurier. Matthieu 12, verset 31. Ils accusent Jésus de blasphémer, les pharisiens. Puis Jésus, après avoir dit ce qu'il avait à dire, donne un enseignement. Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Alors le blasphème contre l'Esprit, vous l'avez au verset 24. Moi, je suis peiné de voir que les gens ne lisent pas la Bible. Il y a des chrétiens qui ont 20 ans de conversion, ils ne savent pas ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème du Saint-Esprit, ben vous l'avez là, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme, en parlant de Jésus, ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ils accusaient Jésus d'être Satan. Mais comment voulez-vous qu'un homme puisse être pardonné s'il croit que Jésus c'est le diable? C'est ça. Et ça c'est clair. Les gens, il y en a dans le monde qui pensent que Jésus est possédé, etc. Enfin, tout un tas de choses. Le tout péché et tout blasphème peuvent être pardonnés. Mais mes frères et sœurs, le blasphème, les chrétiens qui blasphèment, qui maudissent Dieu, qui parlent mal de Dieu, et je pourrais vous donner des exemples, mais enfin quand même, moi j'ai vu des gens qui parlaient mal de Dieu. « Si Dieu était ceci, il ne permettrait pas cela, moi je ne comprends plus rien, c'est pas vrai qu'il m'aime. » Je ne sais pas si on n'est pas en train de friser l'injure. Oui ou non? Mais qui on est pour contester avec Dieu? Malheur à l'homme qui conteste avec Dieu. Et après on demande, Seigneur, envoie le réveil, baptise-moi du Saint-Esprit. Et on dit, ouais Seigneur, tu ne me comprends pas, et pourquoi si, et pourquoi tu me refuses ça? Je ne comprends rien, tu m'oublies. Et on a vite fait de basculer. Mes frères et sœurs, veillons à ne pas maudire le don du Seigneur, à chanter des cantiques beaux comme on les a chantés ce matin. Et puis après, à la sortie, il dit, ouais, je ne comprends pas, Dieu m'abandonne, le Seigneur m'oublie, j'en ai marre, Dieu ne m'aime pas. Moi, je trouve que c'est grave de dire des choses pareilles. Oui ou non? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Non, c'est pas pour la France, ça. C'est pas les Français, c'est pas possible, monsieur Gros, les Français, ils sont pas rebelles. Le mot latin pour rebelle signifie recommencer la guerre. C'est exactement la définition du mot. Un rebelle, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas l'autorité, donc se révolte contre cette autorité-là. Si vous ne reconnaissez pas l'autorité du gouvernement, même si le gouvernement est en dehors des voies de Dieu, ça, je peux vous dire qu'il l'est, mais est-ce qu'on a le droit de se rebeller contre le gouvernement? Avec tout ce qui se met dans les poches, t'as vu le salaire qu'il va avoir? Et alors? Leur salaire, je m'en fiche pas mal de leur salaire. Moi, j'en aurai un autre salaire. Je ne sais pas si vous croyez aux récompenses. Et les gens deviennent rebelles contre l'autorité du pays. Et c'est le diable, il le sait. Si vous êtes fervent de la justice, il y a des gens aussi. C'est pas juste. Ben, il y a longtemps que c'est pas juste. Le procès de Jésus, demandez si c'est juste, vous allez voir. Quelqu'un qui ne reconnaît pas l'autorité de l'État, dans l'Église, tiens donc, est-ce qu'il faut reconnaître l'autorité du pasteur? Ben non, c'est un homme comme les autres, hein, tu vas pas nous saouler avec ça. Hein. Eh bien, moi je ne dis pas ça parce que je suis pasteur, c'est gênant pour moi d'en parler. Mais c'est comme les gens qui disent, ouais mon père il n'est pas converti, tu ne crois pas que je vais me soumettre à mon père, c'est un homme, son père c'est le diable. Eh bien je suis désolé, il faut se soumettre à ses parents. Quand je vois certains garçons, comment ils parlent de leur mère, de leur père, ça me fait peur, moi. Des chrétiens, ils sont rebelles. Et les rebelles dans la Bible, j'ai parlé de Corée. Vous avez vu comment il a fini Corée? La terre s'est ouverte, alors que la Bible dit que le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'Église. Et pourtant, la terre s'est ouverte et a avalé Corée et toute sa famille, parce qu'on le paye cher. Hein. Quand on est rebelle, on a vite fait d'influencer tous les autres dans la famille, et même dans l'Église. C'est pour ça que la Bible dit, éloigne-toi de ces chrétiens-là. Si moi, je refuse de m'associer avec un chrétien qui est toujours dans la rébellion, toujours en train de critiquer l'État, toujours en train de critiquer son pasteur, toujours en train de critiquer son patron, toujours en train de critiquer les autorités. Mais les adolescents qui sont ici, ou les jeunes qui avaient encore vos parents, moi j'ai encore mon père. Demain je vais le voir, c'est son anniversaire, je vais le voir. Et si à 88 ans mon père il me donnait une baffe, qu'est-ce que je ferais d'après vous? Est-ce que je la lui rendrais? Pourtant il est plus faible que moi maintenant. Et il m'en a mis tellement quand j'étais petit. Certaines étaient justifiées, j'en conviens. D'autres moins, ça le défoulait sûrement. Si vous savez les tannées que j'ai pris. Mes frères et sœurs, si vous avez vos parents, honorez-les. Honorez-les. Honorez vos parents, les adolescents, vous qui êtes ici, qui êtes là. Et vous allez aller en enfer si vous ne vous convertissez pas, parce que ça va être un blocage. Ouais, mais mon père, si tu savais le chrétien que... Et alors, comment tu seras toi quand tu seras papa? Comment tu seras toi, jeune fille, quand tu seras maman? Déjà, essaie d'être comme lui. C'est facile de critiquer les gens, de dire, moi, je ferai mieux que mon père, je ferai mieux que ma mère. C'est un signe de la fin des temps. Les gens seront rebelles. Et vous devez prier pour les autorités. Moi, je peux vous dire, je suis pas pour le gouvernement qui existe actuellement. Mais tous les jours, je prie pour M. Hollande. Je prie pas pour que sa retraite augmente. Pendant 10 jours, ça a été comment il va toucher à la retraite. Combien il va toucher? Moi, ça m'est égal. Mais la Bible dit qu'avant toute chose, il faut prier pour les autorités. Alors Seigneur, je te prie pour M. Hollande. Ça ne veut pas dire que je te prie pour qu'il soit béni. Quand on prie pour quelqu'un, quand on dit béni M. Hollande, ça ne veut pas dire il va être plus riche encore. C'est pas ça que ça veut dire. Seigneur, que ta volonté soit faite, dirige, conduis. Est-ce que vous croyez au combat spirituel? Avant toute chose, priez pour les autorités, car cela est bon. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et il y a des gens, ils se disent, moi je comprends pas, j'en ai marre, je joue cafard, ça va pas. Je sais qu'il y a un combat spirituel. Mais mes frères et sœurs, prions pour les autorités, prions pour les autorités dans l'église, prions pour les pasteurs, prions pour les patrons, prions pour les parents. Les adolescents, ne vous mettez pas contre Dieu. Parce que celui qui obéit à ses parents, la Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse. C'est écrit. Ah, ma mère, elle est folle, ma mère. La pauvre folle. Eh bien, c'est ta mère. Eh bien, je vais l'aimer, ma mère. Quand je vois... Vous savez, cette prédication, un enfant chrétien aurait pu la faire. C'est le béaba. Mais je me demande bien si on n'a pas besoin de réentendre ces choses. Rebelles à leurs parents, rebelles aux autorités. Et moi, je vous dis, faites attention si vous avez un patron ou un ami qui est rebelle. Prenez position. C'est peut-être l'occasion de rendre témoignage. Je dis, mais non, moi, je veux prier. Je pense que M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, soyons sérieux puisque c'est biblique tout ça. Est-ce qu'il faut prier pour M. Cazeneuve hein? Par rapport aux attentats, est-ce qu'on peut prier pour cet homme hein? Moi, je prie pour lui. Je pense que Dieu peut préserver, parce que Dieu peut leur donner de l'intelligence, même s'ils sont dans le péché. Est-ce que Dieu peut leur donner de l'intelligence? Ben oui. Est-ce que Dieu peut leur donner du discernement pour qu'un attentat soit déjoué? Oui. Mais c'est écrit de prier pour les autorités qui nous gouvernent. C'est écrit avant toute chose. Il y a des gens, ah non, moi, lui, il me saoule. Moi, c'est une expression que j'ai du mal maintenant, avec cette expression. Rebelle à leur pain, quelqu'un qui n'obéit pas, c'est quelqu'un qui résiste à Dieu. La terre s'est ouverte sur Corée. Ça a été donné écrit pour nous servir d'exemple. Malheur à ces gens qui suivent la voie de Corée. C'est-à-dire des gens qui sont rebelles, tout le temps en train de ne rien écouter. On leur donne un conseil, non, c'est qu'un homme. Alors ils vont lire les psaumes, les proverbes. Oh, béni soit le juste s'il me châtie. Ah mais le pasteur, c'est pas pareil. Lui, ça vient pas de Dieu. Ah ouais? Et si ça vient de Dieu? Que le Seigneur est en train de te montrer, de me montrer que je suis rebelle. Rebelle à mes parents, rebelle à mes patrons, rebelle à l'autorité, rebelle au maire de Toulouse, je ne sais rien. Mes frères et sœurs, tout cela, ça va contribuer à ce qu'on abandonne la foi. Ingrat, je continue un peu, oui, j'ai le temps. Ingrat, bah, moi je loue Dieu tous les dimanches. Moi je chante, oh ces chants que Monsieur Fabio a pris ce matin, qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Ah non, moi je suis pas ingrat. Ingrat, qui n'a point de gré, de reconnaissance, oublieux, qui ne répond pas à l'amour qu'on lui porte. Qui n'a pas de reconnaissance. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous savez remercier les tiens? Est-ce que, par exemple, c'est bien de dire à Jonathan et à la chorale tout à l'heure, merci pour les cantiques de la chorale? Est-ce que c'est bien d'être reconnaissant? C'est ça la reconnaissance. Merci, Jonathan, pour les deux chants qui nous ont fait du bien. Oui ou non? Les gens qui sont dans un mauvais état d'esprit, ah bon, ils ne sont pas nombreux, la chorale, hein? Ben vas-y, chantez. Vas-y. C'est peut-être ce que Dieu te demande. d'apprendre à louer plutôt que de roméguer. C'est un signe, ça, être ingrat. Mais c'est révélateur. C'est vraiment révélateur. Le mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire, oublieux. Combien de fois le malheur est venu sur le peuple d'Israël parce qu'ils ont commencé à oublier de rendre grâce. Ah, vous allez me dire, attention, mais monsieur, moi tout à l'heure, on va manger à table. Il est hors de question qu'on ne rende pas grâce. Hein. Moi, tous les repas, je rends grâce. Oui, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien, mon frère. Mais je ne crois pas que c'est ça, rendre grâce. Rendre grâce est un état d'esprit. Merci. Merci, mon épouse, pour le salaire. Merci, mon mari, parce que tu as gagné un salaire. Est-ce que c'est bien de remercier son mari ou c'est normal? C'est normal. Les enfants, est-ce que vous remerciez vos parents pour la nourriture? Les ados, est-ce que vous savez remercier les parents pour tous les efforts qu'ils font depuis 10 ans, 15 ans, pour vous? Parce que vous allez dire, ah, mais moi, je remercie Dieu, ce genre, les gens, je ne veux pas qu'ils s'enorgueillissent. Mais moi, on entend ça. On entend ça. Non. Le pasteur, non. Le pasteur, il ne faut pas le remercier. Il faut qu'il reste humble. Je l'ai entendu, ça. Salaire, le pasteur, le salaire, pas trop le salaire. Il faut le maintenir dans l'humilité. Vous riez, mais je l'ai entendu, ça. Ah, ça, c'est intelligent. Mes frères et sœurs, la gratitude, ce n'est pas louer à l'église. Louer à l'église, c'est évident. Mais tout à l'heure, peut-être, merci Seigneur pour la voiture que tu m'as donnée. Merci pour le mari que tu m'as donné. Quand j'entends ce que j'entends, mon cœur, il est brisé. Si j'avais su, je ne me serais jamais marié avec ce plouc. Mais ne riez pas. Ne riez pas parce que c'est grave. Mais je l'ai entendu. Si j'avais su, franchement, comment elle est devenue. Eh ouais, mes frères et sœurs, on veut le réveil. Soyons pleins de reconnaissance. Pleins de reconnaissance. Jérôme le disait tout à l'heure, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est évident. Il est continuellement en train de bénir. Oui ou non? Vous le remerciez combien de fois le Seigneur par jour? 3 fois par jour? Petit déjeuner? Le dîner, le souper? Ah, c'est déjà bien, hein? Combien de fois vous dites, tiens, ça m'intéresse? Combien de fois vous dites au Seigneur, merci, dans la journée? Tout le temps? Ben, vous êtes heureux. Ben, c'est révélateur. Si vous êtes, merci Seigneur pour mes deux jambes qui fonctionnent. Est-ce que c'est une grâce d'avoir les deux jambes qui fonctionnent? Merci Seigneur pour le pasteur qui me forme. Hein? Vous le faites? Irreligieux. Mais je ne sais pas si on va à l'église, on est religieux, monsieur Gauss. Soyons sérieux. Irreligieux, ouais, qui ne respecte pas les choses divines. Croyez-moi, on peut aller à l'église et ne pas respecter les choses de Dieu. On les accepte, surtout pour les autres. Ah, si mon mari était là, ça y ferait du bien. Ah, si ma femme était là. T'entends-tu? Des fois, moi, maintenant, je le vois plus. Mais à une époque, je le voyais, ça dans l'église. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour toi. Écoute bien, c'est pour toi. Bon, je pense que ça peut arriver que ça soit pour quelqu'un. Est-ce que ça peut arriver? Oui, pour quelqu'un qui soit à côté. Ça, franchement, ne dramatisons pas tout. Mais mes frères et sœurs, que j'entende pour moi ce que j'ai à entendre. Que je respecte les choses de la parole, toutes les choses de la parole. Je les accepte, je ne les comprends pas. Ça vient de toi, Seigneur, je l'accepte. Et aujourd'hui, on filtre. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ah, la grâce? Non, moi, la grâce, c'est pas ça, la grâce. Pour moi, c'est une couverture pour couvrir le péché. Insensible. Alors oui, j'ai marqué faire la différence entre la sensibilité et la sensiblerie. Il y a des gens qui ont de la sensiblerie. Ils pleurent pour rien. Pour rien. Ils vont arriver dans la rue où ils habitent, le petit chat était écrasé. Ils vont pleurer. Ils vont voir un documentaire sur les phoques du Groenland qui sont en perdition. Ils vont pleurer. Monsieur, qu'est-ce qu'il faut donner pour les phoques du... Les petits phoques du Groenland, j'aime les petits phoques. J'ai entendu ça. J'ai dit, écoutez, il vaut mieux peut-être donner pour M. Bordeneuve, pour les perdus du Togo. Enfin, à choisir. Franchement, moi j'aime les phoques. Mes frères et sœurs, vous comprenez, mes frères et sœurs? Il y a des gens, ils vont pleurer pour le petit chat qui s'est fait écraser, mais ils ne vont jamais pleurer ou prier pour les perdus de leur village. Oh, le fardeau des hommes, écoutez, moi j'en ai assez avec les miens. J'en ai assez avec mes problèmes. J'allais dire, amusez-vous, presque, entre guillemets, à vous occuper des fardeaux des autres et vous allez voir si Dieu ne va pas s'occuper des vôtres. Insensible, qui ne ressent rien. Mais c'est ce qui s'est passé, ce qui s'est passé du temps de Noé. Ils se sont doutés de rien. Ils ne ressentaient rien. Ils étaient assoupis. Quand on dort, on ne ressent pas les choses. Insensible, voilà, oui, c'est bien, d'accord, tout ça, mais il y a beaucoup de... Tout c'est beaucoup là, dans la prophétie qui ne seront pas pris. C'est des gens qui se seront fait piéger par cette insensibilité, par cette fanfaronnade, parce qu'ils sont hautains, parce qu'ils sont orgueilleux. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne perçoivent pas les choses. C'est pour ça que ma prédication, elle se voulait, mais d'une simplicité totale, pour que chacun... Mais continuez, parce que je n'ai pas fini. Déloyal, vous le lirez dans la Bible. Calomniateur. Mais vous rigolez. La médisance, peut-être. Quelle est la différence entre la médisance et le fait de calomnier? La médisance, c'est qu'on dit des choses d'une personne. C'est vrai, ça s'est vraiment passé. Mais c'est peut-être pas utile de le dire. Tiens, monsieur, un tel, il a volé. Tu sais pas, monsieur, un tel a volé. C'est vrai. Et pourquoi je le dis? C'est de la médisance. Mais en fait, c'est la vérité quand même. Tandis que calomnier, c'est des choses fausses. Par exemple, je pensais que... Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Monsieur Go, vous avez dit que vous étiez contre la batterie. » Je n'ai jamais dit ça. Je ne l'ai jamais dit. Et je ne sais pas pourquoi c'est un bruit qui a couru dans toutes les églises de France où on me fait dire que je suis contre la batterie. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit que j'étais contre l'excitation, contre le bruit. Je ne suis pas contre la batterie. Bon, c'est une calomnie, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est grave, ça? Non, ce n'est pas grave. Mais il y en a qui sont beaucoup plus graves. On vous fait dire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est un signe de la fin des temps. Il y a des chrétiens qui sont calomniateurs. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies d'autres. C'est pour ça qu'il faut vérifier avant. Il faut prendre le temps de vérifier. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Ne reçois pas d'accusation contre un ancien sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Moi, je me suis fait avoir. Moi, j'ai calomnié. Il m'a fallu demander pardon à toi, une réunion de prière, je l'ai fait de bon cœur et avec joie, à toutes les églises, parce qu'on m'avait dit des trucs qui n'étaient pas vrais, sur des pasteurs. Tu sais pas, tel pasteur, et moi maintenant ça m'est arrivé, mais je vérifie. Je peux vous dire que la personne, écris-moi-le, puisqu'il est dit, ne reçois pas d'accusation sans la déposition. Eh bien, écris-le, ce que tu viens de me dire. C'est bizarre comment tout d'un coup la calomnie s'arrête. Mais c'est ça la parole de Dieu, c'est ça être droit, être juste. Cette façon d'être droit devant Dieu, intempérant, cruel. Est-ce qu'un chrétien peut être cruel? Est-ce qu'un chrétien peut faire du mal à quelqu'un par ses paroles? Cruel, tendance à faire souffrir, qui prend plaisir à faire souffrir, paroles cruelles, qui fait souffrir celui qu'il aime. Faire souffrir quelqu'un qu'on aime, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire souffrir son conjoint par des paroles? Est-ce qu'on peut faire du mal avec des paroles? Eh bien oui. Seigneur, tu sais combien je t'aime. Et de parler mal à sa femme, de parler mal à ses enfants, de parler mal... Moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal, je vous assure. Je ne dis pas ça, je l'ai déposé, peut-être j'en avais besoin, c'était très bien. Mais je peux vous dire que quand on est pasteur, il y a des gens qui vous font du mal. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit des trucs. Ici, hein, ils ne sont plus là, ces gens. Mais je vous le dis, c'est impensable le mal qu'on peut faire avec une parole. Et tout ça, c'est écrit. Bon, j'arrête. Juste, aimant le plaisir plus que Dieu. Non. Oh. J'aime les choses du monde plus que celles du Seigneur. J'aime la télé plus que l'évangélisation. Ben non, tu plaisantes. Alors, je nous encourage à reprendre ces textes et surtout à réaliser que le diable, il sait ce qu'il fait. Le diable, il est rusé. Et ça suffit d'un. Saül, l'homme privilégié par Dieu, choisi par Dieu, le plus grand à l'époque, c'était le meilleur. Est-ce que vous le savez? C'était le meilleur. Et quand il a désobéi, il a dit, mais non, j'ai obéi, c'est le peuple. Mais non, j'ai honoré Dieu, etc. Puis quand il voit que ça tourne mal, il est hautain. Honore-moi devant les anciens. Il aurait dû dire, je m'en fiche des anciens, que je garde la communion avec Dieu. Les autres, ce que les autres pensent. Ce que les autres pensent de moi, c'est archi important. Non, c'est pas ce que les autres pensent de moi qui est important. C'est ce que Dieu pense. Et mon frère, ma sœur, ne laissons pas le diable nous ravir notre couronne. Ne laissons pas le diable nous amener à nous retrouver dans cette situation où on va être deux fois mort. Ne laissons pas le diable nous éperonner de telle sorte que quand Jésus va venir nous chercher, on reste là, calé sur le carreau. Vous vous rendez compte, le désarroi pour les chrétiens, la joie infaillie, comment dire, infinie pour les chrétiens prêts. Mais quel désarroi pour tous ces chrétiens qui n'auront pas pris à cœur ces choses, qui auront dit oui, il nous a parlé de la dîme, il nous a parlé de l'orgueil, mais oui, on le sait tout ça. Ah oui ? Eh bien, c'est bien. Eh bien, si on le sait, mettons-le en pratique. Mes frères et sœurs, je vous le dis de la part du Seigneur. Prenez ce texte, votre dictionnaire, et dis Seigneur, éclaire-moi. Je lisais ce matin les psaumes où David, tu connais la voie sur laquelle je suis. Montre-moi donc sur quelle voie je suis. Il le disait, c'était un homme, il était dans la caverne, il était dans une caverne, veut dire, c'était pas le top. Hein. Il est là, il pleure, il gémit, il se plaint, tu connais mon sentier. Et puis dans le psaume d'après, il dit, mais montre-moi la voie que je dois suivre. Seigneur, montre-moi sur quelle voie je suis. Écoutez, c'est, moi je pense que j'ai fait ma part, j'ai fait mon travail scolaire ce matin. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes sérieux avec Dieu ? Est-ce que vous êtes quand même capable de reprendre ce texte, de vous mettre à genoux peut-être devant Dieu, à genoux en tous les cas spirituellement, et de dire Seigneur, s'il y a un truc qui me colle, qui correspond à ce qu'on a lu ce matin, je veux m'en débarrasser. Est-ce que Dieu va vous aider ? Ben oui, il va nous aider, Seigneur. Il va nous aider. Moi, vous voyez, j'ai eu un problème avec la dîme pendant 4 ans, je crois. 4 ans, quand j'y pense. Eh bien, j'ai supplié Dieu. J'ai pleuré. Et Dieu m'a aidé. Dieu est notre aide. Il va nous aider. Il est là pour nous aider. Il est assis où, le Seigneur ? Il est assis sur le trône blanc en ce moment ? Ou il est assis sur le trône de la grâce ? Sur quel trône il est assis, le Seigneur ? Et le trône de la grâce. Donc, il est là pour nous aider. Que quelle que soit la façon dont vous interprétiez la prédication, Dieu est là pour vous aider. La gloire à Dieu. Alors on va prier. J'aimerais que l'on prie vraiment. Puisqu'on a le pasteur Bordeneuve, je lui ai demandé de venir à ma place prier. Mais est-ce que vraiment on peut prier dans ce sens ? Si, Seigneur, si je suis concerné par un de ces points, je vais le régler. Si je suis concerné par l'orgueil, je vais le régler. Si je suis concerné par l'avarice, je vais régler cette affaire. Si je suis concerné par le fait que je sois rebelle à mon père, peut-être que vous n'êtes pas baptisé, mais vous n'arriverez jamais au baptême et à la bénédiction si vous restez rebelle. Alors on va prier. Vraiment, on va prier. Prier, c'est vraiment demander à Dieu. Ce n'est pas on conclut le culte parce que tiens, il faut conclure. Non, c'est faire une prière. Dieu veut l'exaucer, cette prière. Prions avec notre frère, M. Bordon, avec que le Seigneur nous garde dans cet état d'esprit.
Seigneur, pour chacun... Nous sommes devant toi, Seigneur, tu nous permets que ta parole soit mise en relief et qu'elle soit précisément claire pour le fait de toi-même, de chacun. Car il ne s'agit pas, Seigneur, de vivre avec, Seigneur, pensant que d'autres ont besoin, mais chacun d'entre nous, Seigneur. Aussi, nous te laissons ausculter le fond de notre cœur. Car nous voulons, Seigneur, obéir à ta parole. Nous voulons l'entendre, la recevoir et la pratiquer, Seigneur. Si ce n'était pas toi, Seigneur, nous ne serions pas touchés. Mais comme c'est toi, Seigneur, nous sommes touchés par le Saint-Esprit et nous désirons vraiment ne jamais attrister le Saint-Esprit, jamais être rebelles à ce que, Seigneur, toi, tu as voulu nous dire, c'est écrit, c'est scellé, et ça ne passera jamais, c'est ta parole. Alors Seigneur, merci d'agir dans chacun de mes frères et sœurs, moi-même, et Seigneur, tous ceux qui aussi entendront ta parole par les voix des médias, Seigneur, et nous savons que c'est ta grâce, Seigneur, qui permet de préparer ton peuple dans le monde entier, Seigneur aussi, à être prêt, Seigneur, et aussi à se préoccuper de tous ceux qui ne le sont pas. Seigneur, à toi la louange, Seigneur, à toi la gloire, à toi le respect, à toi, Seigneur, tout notre amour, à toi tout notre désir, Seigneur, d'être purifié, Seigneur, lavé de tous nos péchés, Seigneur. Notre désir est tel que nous voulons être heureux avec un cœur pur. Merci, Seigneur. Amen.